Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Canto Sperber. La ville des flux, question morale sur le développement urbain avec Olivier Mongin. La ville a changé de dimension. Il existe aujourd'hui plus de 20 villes qui comptent plus de 10 millions d'habitants. Mais plus fondamentalement, l'espace urbain s'est complètement modifié, en lui-même et dans ses rapports avec son environnement. Surtout, la civilisation fondée sur la ville a pris un sens jamais vu. Près de 40% des habitants du globe, plus de 3 milliards, vivent dans des villes aujourd'hui. Comment penser une telle mutation survenue de façon si soudaine, si radicale aussi? Quelles questions poser sur le sens de la communauté humaine, sur les valeurs de l'être ensemble et de l'habiter un espace commun? Merci Olivier Mongin d'avoir répondu à l'invitation des questions d'éthique. Alors, vous avez depuis fort longtemps travaillé sur la ville et vous venez de publier un livre aux éditions Fayard, un livre tout à fait passionnant, « La ville des flux ». L'envers et l'endroit de la mondialisation urbaine. Vous êtes directeur de la publication de la revue Esprit et vous avez animé, co-animé, rédigé, publié un ensemble de travaux vers la troisième ville et la condition urbaine qui sera d'une certaine façon aussi un ouvrage sur lequel nous nous appuierons, sur lequel nous reviendrons constamment. Vous insistez d'emblée sur le lien entre mondialisation et urbanisation. Mondialisation, qui est un phénomène caractéristique des dernières décennies, c'est-à-dire la mise en relation du monde, la fin des frontières, la fin des zones réservées, et puis d'un autre côté, cette concentration de population dans l'espace urbain. Comment les deux articulent ?
Ce livre est un peu fait pour aller contre l'idée qu'on ne peut voir la mondialisation qu'à travers le prisme économique. Bien entendu que le prisme économique est décisif, essentiel. D'ailleurs, je rappelle que la crise de 2008 économique a commencé par ce qu'on appelait la crise des subprimes, c'est-à-dire le problème des crédits immobiliers aux États-Unis. L'idée, c'était donc de rappeler effectivement que l'économique nous renvoie à des questions qui sont liées à ce qu'on appelle la rente immobilière, la rente foncière, et beaucoup plus largement à ce mouvement d'urbanisation, vous l'avez parfaitement évoqué, extrêmement rapide. Je prends toujours cet exemple de Claude Lévi-Strauss, qui fonde un institut d'études sociales à Sao Paulo en 1934 avec Fernand Braudel. Il y a déjà 2 millions d'habitants à Sao Paulo, il y en a 22 aujourd'hui, et l'anthropologue, justement, quelqu'un qui a un sens, je ne dirais pas nécessairement éthique, mais anthropologique de ce qu'est un ensemble urbain, Lévi-Strauss dit « ça va beaucoup trop vite ». La question qui se pose à nous en ce début du XXIe siècle, déjà bien entamé, c'est une urbanisation très rapide, très très rapide. Vous l'avez aussi évoqué, début du XXe siècle, on a 8% de la population urbanisée, le reste est rural ou dans des zones qui ne sont pas rurales. Aujourd'hui, nous allons vers 70% en 2050-2060. Donc on assiste à la dernière génération de population qui monte vers les villes. Est-ce que ça va encore dire quelque chose, monter vers les villes? On y reviendra. Chercher un peu l'hospitalité urbaine, c'est malheureusement beaucoup plus compliqué. C'est la dernière génération. Et je m'arrête là-dessus. Aujourd'hui, donc, génération, mais en Asie du Sud-Est, en Afrique, aujourd'hui, dans des pays comme le Brésil, la croissance urbaine est une croissance endogène. C'est-à-dire que la croissance de Sao Paulo n'est pas due aux populations, il y en a bien entendu, qui viennent des zones rurales. C'est une croissance endogène. Donc, l'urbanisation est une question centrale qui est d'une certaine manière, moi je deviens un petit peu géographe dans un pays d'historien, on peut mettre les cartes sur la table. C'est l'intérêt de regarder l'urbanisation, c'est qu'on voit le changement du monde dans toutes ses dimensions, l'arrivée des connexions extrêmement fortes, l'évolution des ports, des aéroports. On voit un peu, il faut bien le dire, qu'on ne le comprend pas toujours ici, le terrible décentrement de l'Europe. décentrement de l'Europe qui devrait nous interroger, parce qu'on a peut-être quelques valeurs urbaines à défendre.
Alors, mise en communication du monde qui amène une mutation du vivre ensemble, de ce qu'est faire une communauté dans un espace clos, puisque la ville est traditionnellement définie comme cela. Vous avez rappelé, en effet, le mouvement des campagnes vers les villes qui a été la clé, le moteur premier de l'urbanisation à partir du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, ce mouvement qu'on connaît bien, qui a provoqué également des mutations sociologiques très importantes, en France en tout cas, n'est pas le premier facteur de la croissance des villes. Vous avez mentionné la croissance endogène, ça veut dire des personnes qui se multiplient et dont les activités communes développent en leur sein d'autres types d'initiatives et donc les personnes qui également sollicitent les personnes qui les portent. On pourrait ajouter un troisième mouvement qui est tout à fait caractéristique de la période contemporaine. Donc, où il reste en effet quelque chose, ce qu'on appelait autrefois l'exode rural, où le premier élément de croissance, c'est le développement endogène, mais également cette espèce de projection de la ville sur tout l'espace environnant et même sur la campagne. Alors, comment comprendre la portée, le sens de ces derniers éléments ?
Je crois que c'est ça qui est essentiel. Il faut bien comprendre que l'urbanisation, ça ne correspond pas simplement à du construit. Aujourd'hui, on assiste à un retournement complet de ce qu'était le mouvement urbain, je dirais, de type européen. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres mouvements urbains. Il y a des très grands penseurs qui ont réfléchi sur l'urbanisme. Il n'y a pas qu'en Europe. Il y a le grand Ibn Khaldoun, grand géographe arabe. Il y a Sinan dans le monde ottoman, etc. Mais moi, ce qui me paraît très important, c'est de comprendre ce que rappelle toujours l'historien Jacques Le Goff. La ville, elle s'est faite en accompagnant la campagne, mais dans un mouvement qui nous faisait quitter un peu le désert. Et d'ailleurs, le désert, c'était le monde de la spiritualité, c'était le monde de la retraite. Et la forêt qui, elle, n'oubliez pas la sorcière de Michelet, était le monde un peu du crime, voire le monde féminin, le monde de ce qui était un peu dangereux et menaçant. Donc la ville s'est faite par rapport à la campagne, à la forêt et au désert. Aujourd'hui, on a un mouvement inverse, c'est-à-dire que l'urbanisation affecte l'ensemble des territoires. La campagne, nous vivons, même en France, dans un monde où les industries agricoles sont très fortes. Après, qu'est-ce qu'on dit à propos de la forêt ? On parle de déforestation. Quand vous allez au Brésil, la question, et c'est une question mondiale, centrale, c'est l'Amazonie. Le débat sur la forêt amazonienne, c'est la déforestation. N'oublions pas que nous avons, nous, une grande partie de cette forêt avec la Guyane et que ça ne fait pas assez partie de nos débats, je pense, ici en France. Et nous avons aussi une désertification. Donc, vous voyez bien que le problème n'est plus simplement la montée vers la ville, il est la manière dont, comme vous l'avez évoqué, je dirais l'urbanisation affecte l'ensemble des territoires. Et qu'on pourrait ajouter, pour faire le lien avec ce qu'on a dit dès le début, c'est que cette urbanisation contemporaine mondialisée n'est pas une mondialisation qui valorise énormément les valeurs urbaines qu'ont portées la ville dans son histoire. Ce qui ne veut pas dire que ces valeurs urbaines ont toujours été appliquées merveilleusement.
Alors, on va revenir là-dessus, parce qu'en effet, c'est un élément extrêmement important. Mais revenons sur ce mouvement de projection de la ville en dehors de ses frontières, sur tout ce qui l'environne. Au fond, une des visées est de refaire la nature. C'est à cette fameuse mythologie néo-urbaine qui voudrait s'imposer aujourd'hui. Ne pose-t-elle pas une question ? Une question sur ce que signifie une ville, en fait. Si la ville peut se projeter partout, et en particulier dans la campagne, et façonner tout le paysage en fonction de ce qu'elle ressort, de ce qu'elle l'amène à sortir de soi, que signifie une ville ? Parce que c'est traditionnellement lié aux idées de limites. Autrefois, les villes étaient entourées de murailles, de forteresses. On ne peut pas imaginer une ville sans des quartiers, sans une espèce de travail de la différenciation de l'espace. Que reste-t-il de ces valeurs ? Où est-ce que la dimension du flux, dont nous avons parlé à présent, avant d'aborder la question des valeurs, est-ce que la dimension du flux contribue aussi à refonder complètement ces
valeurs ? Voilà, vous mettez l'accent, et je crois que c'est fondamental, sur le problème de la limite. C'est de revenir là-dessus, après avoir rappelé qu'aujourd'hui, les flux sont plus forts que les lieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'époque de Venise, de Gênes, voire d'autres grandes villes hanséatiques, les grands ports européens, quand même, avaient une capacité de contrôle. C'est-à-dire que le territoire contrôlait son environnement et ses propres flux marchands, et voire même financiers, etc. Ça donnait d'ailleurs du grand théâtre, on retrouve ça dans Shakespeare, etc. Aujourd'hui, les flux sont plus forts que les lieux. En même temps, nous sommes dans un monde qui est fini. C'est ça le paradoxe, les flux sont infinis, portés aussi par le virtuel, par l'immatériel. Les flux ne sont pas que matériels, ils sont aussi immatériels. C'est peut-être pas le sujet de la discussion, mais moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que ce qui se passe avec la révolution technologique dans l'immatériel se passe dans les territoires. C'est pour ça que la connexion est le problème central aujourd'hui. Je m'arrête sur ce plan, je reviens à ce que vous avez évoqué. La question de la limite, elle est centrale. Pourquoi l'ensemble urbain médiéval, par exemple, la naissance de la commune médiévale, consiste à marquer des limites qui vont permettre un mouvement d'intégration. Donc ça a une signification politique, c'est l'émancipation de la commune, terme très important qu'on connaît toujours aujourd'hui. Or aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a plus des limites qui permettent l'intégration, c'est-à-dire qui marquent un dedans et un dehors, c'est ça que ça veut dire, un seuil, et le seuil, on va le franchir, ou pas, on va être accueilli ou pas, il y a des portes hein, dans toutes les villes à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a un double mouvement que j'essaie de décrire dans le livre à travers des scénarios. Soit vous avez un mouvement de la ville illimitée, moi j'appelle ça la ville pieuvre, la ville un peu qui paraît un peu monstrueuse, même si c'est des villes où on se retrouve toujours. Les deux exemples que je prends, c'est ça pour les connaître, Sao Paulo et Johannesburg. Hein, qu'on appelle un philosophe africain qui a beaucoup travaillé sur Johannesburg, appelle ça la ville élusive. C'est la ville qui échappe. C'est des villes sans limite, illimitées. Mais de l'autre côté, pensons très vite à Dubaï ou Singapour. On a des villes qui sont des villes contractées. C'est des villes qui ont très bien, ce sont des îles très souvent, hein, des îles dans le désert ou des îles comme le port de Singapour, le plus grand port container au monde aujourd'hui. Ce sont des espaces urbains qui, au contraire, sont limités, mais la limite, elle est séparatrice. Donc aujourd'hui, l'urbanisation, elle va dans ce double sens et portée par cette question que vous avez très bien évoquée de la limite. C'est soit on a une limite. On a une absence de limite, soit on a une limite séparatrice. Alors vous voyez bien que ce qu'on a perdu, c'est ce qu'on pourrait appeler la limite intégratrice. Oui, et là, c'est un peu mon désaccord avec beaucoup de chercheurs et autres qui disent « Là, l'urbanisation, c'est complexe, il ne faut plus repenser en termes de limite. » Si, on va être obligé de repenser en termes de limite. Mais la limite, ce n'est pas nécessairement la limite administrative. La limite, ça peut être la limite paysagère, la ligne d'horizon.
Voilà. Et c'est une limite qui circonscrit aussi une entité qui pourra défendre la liberté, approfondir un certain nombre de politiques, de solidarité à l'intérieur de la ville, de soutien mutuel, etc. Ce n'est pas simplement une donnée négative. Par exemple, ce permis qui est nécessaire, ce passeport qui est nécessaire en Chine pour accéder aux villes, et qui condamne la population urbaine en quelque sorte à vivre sur les franges, sans aucun accès à la scolarité pour les enfants, sans aucun accès à des soins médicaux et sans aucun accès au travail. L'espace de la ville, et c'est l'aspect positif de la limite, permet aussi une distribution des avantages ou des moyens de vivre qui permet à une communauté de se constituer. Donc là, il est clair que c'est un élément qui repousse. Et d'un autre côté, ne peut-on pas s'étonner du développement de certaines villes, surtout en Amérique du Sud, dans une géographie, il est vrai, difficile à aménager, où autour de la ville croissent ces quartiers qui sont souvent des taudis ou des favelas et qui se perchent dans les géographies les plus improbables. On se demande comment il est possible même d'organiser une vie humaine, par exemple sur ces morts ou ces espèces de pitons, de massifs qui entourent qu'on voit à Rio, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors là, vous touchez une question qui est tout à fait centrale et qui, au fond, est une des grandes questions contemporaines, mais qui vaut pour la France, que moi, j'essaie de décrire des tendances lourdes que je retrouve partout, mais de manière singulière. Mais bien entendu, qu'on ne vit pas à Paris comme à Sao Paulo, comme à Kinshasa ou comme à Shanghai. Il y a à chaque fois des différences. Mais il faut apprendre, plutôt de laisser croire qu'on va vers un modèle qui s'homogénise de plus en plus et qu'on va tous vivre dans un mélange de Dubaï, de Singapour et de New York et de je ne sais quoi encore. Non, je pense qu'il y a des limites qui vont dans le sens. Il y a des tendances qui vont dans le sens de ce qui a été dit sur la limite et qu'on trouve des scénarios singuliers. Donc le problème, c'est de refaire de la valeur urbaine, comme vous l'avez dit, et je dirais de la démocratie, dans un monde où le modèle urbain aujourd'hui tourne autour de ces trois mots slogans, global, vert, connecté, c'est ce qui définit Singapour aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a un mot qui manque, c'est démocratie. Parce que le devenir urbain contemporain, prenez Dubaï, Singapour, je pourrais prendre d'autres exemples, ne va pas dans le sens démocratie. Si le Brésil est un pays démocratique, on voit très bien que c'est un pays qui a beaucoup de mal à gérer son urbanisation. Le paradoxe, c'est que la Chine, qui n'est pas un pays démocratique, avec le Hukou qui lui permet de contrôler les flux de population, se débrouille beaucoup mieux avec son urbanisation que le Brésil, je dirais en apparence. Quand on y va, on voit quand même les difficultés, les constructions trop rapides, les affaissements de terrain et tout ce qu'on veut. Mais c'est très important de revenir à l'esprit urbain, qui est quand même celui de la police, que vous connaissez mieux que moi, et qui est quand même cette question, derrière cette question de la ville, il y a bien entendu la question politique, c'est est-ce qu'on peut faire vivre ensemble des gens sans qu'ils s'entretuent ? C'est la question grecque, c'est la question de la police. La police, c'est la question de la violence. Donc la question de la violence des favelas, c'est pas une question à la marge, c'est une question qui porte l'avenir de ces villes.
Alors, justement, revenons sur cela. Les valeurs de la ville, quelles sont-elles ? Bien, dans la ville, aujourd'hui, dans l'époque contemporaine, on a accès à un travail. L'offre de travail, elle est plutôt dans les villes. Dans les villes, on a accès à la solidarité. On a accès à des outils publics de promotion des individus, l'accès à la santé, l'accès à l'école, évidemment. C'est pas dans des déserts qu'on peut trouver cela. Et puis, on a également accès à, dans le meilleur des cas, à des valeurs de citoyenneté. Il y a des lieux publics, on peut échanger des idées, on peut parler avec d'autres, créer des groupes qui défendent, qui donnent voix à des revendications, qu'elles soient légitimes ou pas, mais en tout cas, du lien humain qui s'inscrit qui est rendu possible par l'espace territorial, par le dessin du territoire lui-même. Mais en même temps, du fait que, par définition, la ville, c'est une concentration d'individus, elle secrète des dangers, des maux qui sont de plus en plus attachés à la civilisation urbaine. Alors, vous avez parlé de la violence, mais même plus concrètement, la détérioration climatique, le fait que dans certaines villes, maintenant, vous parlez de la Chine, il est particulièrement difficile de respirer.
Tout à fait,
la transmission des maladies, la possibilité, en effet, avec, au fond, il suffirait d'empoisonner une conduite pour faire mourir une ville entière. Des conditions sanitaires épouvantables qui sont de plus en plus difficiles à assumées par les individus. Donc, comment gérer cela ? Comment faire en sorte que cette civilisation qui donne tant de moyens ne fasse pas de la ville le concentré de tous les ratés ou de tous les dangers qu'elle recèle ?
On peut revenir à ce que sont certaines traditions réflexives liées à la ville. Vous les avez de sa manière évoquées. La ville, c'est ce qui va me donner la sécurité, donc me protéger d'une certaine violence. Et en même temps, la ville, c'est un facteur d'hospitalité. C'est la grande tradition de la ville-refuge qu'on trouve dans les grands textes juifs de la Torah, etc. La ville-refuge, c'est la capacité d'hospitalité. Mais en même temps, la ville, elle doit assurer la sécurité. Et d'ailleurs, souvent, elle donne l'hospitalité pour assurer la sécurité. Ça, c'est le premier couple, sécurité-hospitalité. Comment faire en sorte que ce soit vivable en même temps ? Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a dissociation de la sécurité et de l'hospitalité. Ça donne tous ces condominiums, ces espaces fermés sur eux-mêmes, ghetto de riches, ghetto de pauvres. Donc, la limite séparatrice qu'on a évoquée depuis le début. Ensuite, je reviens à l'esprit, tout simplement, ce qu'on peut appeler l'urbanisme. Le terme d'urbanisation, il vient de Cerdà, Barcelone, 1867. On est en pleine société industrielle. Cerdà, il dit, vous les avez évoqués, des choses extrêmement simples. Il ne va pas, lui, il ne s'embarrasse pas de réfléchir sur le grand imaginaire urbain, les valeurs. Il dit, une ville, c'est quoi ? Au fond, on dirait aujourd'hui, c'est un petit État-providence. C'est-à-dire que nous allons mutualiser les services publics et nous allons partager les risques. Alors, tout le problème est de s'accorder sur... Quel risque ? Vous en avez évoqué, risque relatif à la santé, l'évolution de l'environnement, etc. C'est aussi simple que ça, la conception, ce qui est un urbanisme, mais je dirais moral, avec sa moralité publique. Hein, c'est ça qui est très intéressant.
Parce qu'il y a des valeurs qui sont accessibles que dans l'espace.
C'est les petites valeurs de l'État-providence que nous sommes peut-être en train de perdre. Quand je vais au Brésil, où justement, il n'y a pas d'urbanisme qui accompagne l'urbanisation aujourd'hui. Et les élites soucieuses et lucides nous disent « Mais vous êtes en train de lâcher votre État-providence alors que nous, on a besoin de le créer. » Mais l'État-providence, au sens de Cerdà, de ce qu'est l'urbanisme, partager les risques, mutualiser les services. C'est aussi simple que ça. Alors, une fois qu'on a évoqué ces deux questions, sécurité, hospitalité, une urbanisation de services après, qui offre des services. D'ailleurs, les services servent à quoi ? À rendre mobiles les gens, à les désenclaver. Parce que dans tout ce qu'on raconte là, je dis ça par rapport à votre émission, n'oublions pas que le problème, c'est comment je bouge dans mon espace. Est-ce que je suis bloqué dans un chez-moi ou est-ce que je suis dévoré par la masse ? Dans le mot « espace », le latin « spatium » nous rappelle qu'il y a quelque part le « spes », l'espoir. L'attente, c'est-à-dire dans la capacité de bouger, je me donne quelque part un horizon d'avenir. Je dis ça parce que ce n'est pas jouer sur les mots.
Justement, là, une question s'impose, me semble-t-il, pour que les choses soient bien claires pour nos éditeurs et qu'ils comprennent bien l'ampleur du paradoxe. C'est qu'on est dans un monde des flux, dans un monde où donner aux individus une puissance d'agir, c'est d'abord leur donner la possibilité de se déplacer, en effet, de se déplacer de leur statut social, de se déplacer de là où ils sont nés, éventuellement même de leur religion, de leurs affiliations, de leurs appartenances. Bref, de créer leur propre destin, dans une certaine mesure, en tout cas. Mais d'un autre côté, c'est cette réalité des flux, qui est vraiment la réalité fondamentale de notre monde, va de pair avec un souci, et on y revient, de différenciation, de séparation, de protection et d'éloignement de ce qui est perçu comme potentiellement dangereux. Il y a là quand même un paradoxe qui est très difficile à expliquer.
Oui, alors premier point que vous évoquez qui est essentiel, c'est réfléchir sur les flux, les vitesses, c'est pas dire il y a une bonne vitesse et une mauvaise, parce qu'effectivement, l'homme mondialisé d'aujourd'hui, le financier ou l'artiste qui peut vivre dans toutes les villes du monde, quelque part, il est hyper mobile, il va de grand hôtel en grand hôtel, ou de studio en studio dans toutes les villes, et d'autre part, il va dans la ville piétonne et il va dans les aéroports. Le problème aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, avec l'urbaniste David Mangin, c'est de créer ce qu'on appelle l'intermodalité des rythmes et des vitesses. Il faudrait faire une poétique des rythmes. Le problème, c'est de passer d'une vitesse à l'autre, alors que des gens sont souvent bloqués soit dans le non-lieu, c'est complètement hors-jeu, c'est les fameuses favelas, dont je rappelle d'ailleurs que le problème après, c'est celui de les reconnaître. À Rio, où il y a près de 1200 favelas, jusqu'il y a quelques décennies, la grande majorité n'était même pas marquée sur le cadastre. Parce que c'est là où on retrouve hospitalité. Ça veut simplement dire prendre en compte ce qui existe et donc le dessiner, le mettre sur ma carte quand je suis le maire de la ville. Ça me permet, et je m'arrête, de bien rappeler une chose, c'est que le problème de l'urbanisation, ça relève de l'État, des villes, des municipalités, de toutes les échelles territoriales. On est là, nous, en pleine réforme de ces échelles. Ça relève aussi du marché. Donc, il n'y a pas que la force publique, la puissance publique, il y a le marché. Mais ça relève aussi de ce qui n'est ni dans le marché, ni dans la puissance publique. Et là, on trouve une question qui est devant nous, qui est la question de l'informel. L'informel, en ce qui concerne les territoires, c'est jusqu'à 65-70% des territoires. On peut discuter à l'infini des chiffres. Une ville comme Le Caire, où il se passe tant de choses en ce moment, c'est une ville où il y a 75% de gens. Est-ce qu'on peut dire habités ? Oui, ils habitent quand même, mais ils sont dans l'informel, ni dans le marché immobilier foncier, ni pris en charge par l'État ou reconnu. Voilà.
Alors là, ce qui oblige quand même à la modestie, ou en tout cas à une bonne compréhension de la spécificité de cette question pour toutes les politiques d'urbanisation. Parce que le volontarisme d'urbanisation se heurtera toujours à cela. D'abord aux forces du marché, aux forces des associations, des individus même, et puis à cette espèce de mouvance de l'informel qui est devenue une des puissances créatrices de la ville et qui est très difficile.
On trouve des questions passionnantes.
Peut-être qu'il faut aller au cinéma dans ce cas-là. Quand on est un urbaniste, parce qu'au fond, le cinéma a parfaitement parlé de cela. C'est le mode d'expression artistique qui est le plus adapté pour décrire la réalité contemporaine de la ville.
Soit la photo nous ramène à Paris des années de l'entre-deux-guerres, on le voit très bien, justement, le cinéma, on a peu de cinéma parisien qui t'a choqué sur Paris, c'est sûrement un signe des temps. Bien sûr, parce que le cinéma, c'est le mouvement. C'est le mouvement et la rapidité. Dans le film culte des films cultes, pour les jeunes, c'est Drive, qui est ce film dont le héros principal, justement, est un coureur de Formule 1, de voiture automobile rapide, et qui va faire un travail un peu illégal, justement, quasi mafieux. Mais le problème, c'est d'aller le plus vite possible pour pouvoir déjouer tous les pièges de la ville.
Alors justement, dans votre livre, vous évoquez de manière extrêmement puissante un ensemble de villes et une typologie des villes, des configurations de villes, en fonction de la façon dont elles organisent leur mouvement interne, où elles organisent leur rapport à l'espace. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la ville pieuvre, vous évoquez également la ville nomade. Un autre modèle de ville qui est très présent aujourd'hui, surtout en Asie et au Moyen-Orient, c'est la ville globalisée, c'est-à-dire celle qui est surconnectée, décontextualisée, comme vous dites, qui fait tout un monde à elle-même. Alors ça, c'est par excellence Dubaï, Pudong, ce sont les exemples que vous donnez.
Oui, mais ce que je dirais, j'essaye de retrouver, justement, on suit un peu notre fil de la limite. La question de la limite, non pas une fois de plus par rapport à de nouvelles limites politiques, comme s'il y avait un bon modèle politique de la métropole contemporaine, mais le problème, c'est beaucoup d'urbanistes ou de paysagistes disaient, on a beaucoup dit, le projet l'emporte sur le site. Aujourd'hui, les gens qui réfléchissent de manière très intéressante, comme Sébastien Marot, sont des gens qui disent, le site doit précéder le projet. Hein, on parle beaucoup de Lyon métropole, mais Lyon, par exemple, où cette ville regarde? Est-ce qu'elle continue à regarder vers le monde du Lyonnais, vers le centre, ou est-ce qu'elle regarde, comme l'appelait Brodel déjà, vers les Alpes, qu'on voit quand on prend le TGV et qu'on descend vers le sud? Est-ce qu'elle regarde vers l'Europe centrale? Bien entendu, cette ville qui nous connecte beaucoup plus directement à l'Europe que toutes les autres villes, cette ville, elle ne sait pas encore vraiment bien où elle regarde. Elle continue à regarder Fourvière.
C'est pas simplement le flux, là, c'est le nexus. Hein, c'est...
Oui, oui, voilà. Mais moi, je pense que cette question...
Ça se situe dans un réseau et dans un...
Voilà, lieu, moi, je plaide, je refuse l'idée qu'il y a soit homogénéisation. Oui, il y a homogénéisation. Je peux vous montrer le même quartier où on regarde des agences d'urbanisme en 3D à Shanghai, à Paris, voire à Lyon et à Sao Paulo. Hein, la même chose en 3D, c'est les mêmes agences qui font ça et qui vendent parce qu'il y a un marché de la ville, hein, bien entendu. Il y a un marché urbain. Mais je refuse aussi l'idée du chaos. C'est-à-dire que s'il n'y a pas homogénéisation, la mondialisation sera un facteur. Non, moi, j'essaie de dégager des scénarios et des scénarios qui ont un sens plus ou moins politique, plus ou moins démocratique. Et il est évidemment que mon scénario préféré, même si le mot métropole aujourd'hui prête à beaucoup de polémiques, c'est celui d'une ville capable de s'inscrire dans un contexte. Alors que les villes que vous avez évoquées, Dubaï, c'est des villes hors contexte.
Alors, je voudrais que nous terminions là-dessus, mais quand même un mot pour ce modèle de ville que nous connaissons le mieux en Europe, c'est-à-dire ce que vous appelez très joliment la ville-récit. C'est la ville européenne pour les anciens.
Oui, voilà,
la ville que certains disent musée.
Est-ce qu'on peut faire l'économie de la ville-récit de toute façon, quel que soit le scénario? Moi, je pense que justement, répondre à comment mieux respecter les valeurs urbaines dans cette urbanisation galopante oblige justement à rappeler que l'imaginaire urbain est aussi important que le projet et que le type de gouvernance. Et je vais rappeler, l'expérience urbaine, c'est le corps qui se déplace, mais c'est surtout la théâtralité. Je rappelle quand même que la Commedia dell'arte, les personnages de la Commedia dell'arte, c'est des noms se correspondent à des villes en Italie. Il n'y a pas de ville qui n'ait pas sa théâtralité. C'est pour ça qu'il y a aussi aujourd'hui, pour moi, Houston est une ville quasiment morte. C'est une ville sans théâtralité propre, sans capacité de bouger corporel. Le problème partout dans le monde aujourd'hui, que vous alliez en Colombie où il y a des architectes formidables, ou même au Brésil. Comment on va recréer du récit urbain? Et ça vaut pour les villes qui se portent le plus mal.
Alors, un mot pour conclure.
Et cette on pourrait ville... conclure sur Kinshasa, que j'évoque.
Mais concluons plutôt sur une perspective d'espoir. Cette possibilité d'une bonne ville, d'une ville dans son contexte, d'une ville contexte, ce que vous appelez donc la métropole, peu importe le mot. Mais vous en donnez quelques exemples. Seattle, Vancouver, Nantes, c'est-à-dire des villes qui sont arrivées
oui,
à constituer
leur
équilibre. Pouvez-vous nous donner une perspective d'espoir qui
Non, mais bien entendu. Mais moi, je pense que la question de l'habiter est devant nous, qu'on ne peut plus le penser à la mesure de ce qu'a été l'histoire européenne. Même si nous, on peut encore vivre des décennies, et pas si mal, à Paris ou à Lyon ou à Nantes, mais Paris ne porte pas le devenir du monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien entendu qu'il y a des villes qui, d'une certaine manière, essayent de répondre aux défis, mais je vais vous répondre de manière positive. J'avais eu l'occasion de voir le directeur d'urbanisme de Recife, 6 millions d'habitants. Lui, il me disait une chose extrêmement simple, pour revenir à notre problème de la violence. Le problème n'est pas de sauver ma ville, le problème est de la rendre vivable, parce que si je la rends pas vivable, eh ben, les entreprises ne viendront pas, c'est pas pour faire les loges de l'entreprise, il n'y aura pas de boulot et les gens n'y vivront pas. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. On trouve là, je dirais, des arguments anthropologiques, des invariants anthropologiques qui sont ceux-là même que Lévi-Strauss comprenait très bien. Ça veut dire qu'on n'habite pas n'importe où, n'importe comment. Et tout le monde en fait l'expérience quotidienne. Je peux vivre pas loin de la maison de la radio dans le plus bel appartement du 16e arrondissement et être complètement dépressif parce que je suis bloqué dans mon intérieur. Et comme je peux vivre bien dans une ville comme Kinshasa, et là il ne faut pas être démagogue pour autant, parce que c'est une ville où le théâtre urbain est extrêmement fort, beaucoup plus fort qu'ailleurs.
Bon, merci Olivier Mongin pour cet entretien. Merci à François Connat qui a réalisé cette émission. Merci à Jean-Richard Dufour qui était à la technique.
J'ai la vie après toi. Des comme moi, il y en a des tas qui vivent ici dans cette ville. Des fois, je me dis qu'il n'y a que ça, Paris est une province enfuie. Je suis parti, ne m'en veux pas, c'est trop petit pour moi ici. Je suis parti et c'est comme ça, on ne retient pas ce qui s'enfuit.
Alors, la semaine prochaine, eh bien, nous parlerons d'un sujet quelque peu semblable, puisqu'il s'agira de la bonne ville et du bon gouvernement. La réflexion sur les magnifiques peintures murales de Lorenzetti à Sienne, avec Patrick Bouchon, oui. Maîtriser la peur. J'ai la vie devant toi. N'oubliez pas, juste à l'instant, Marie Richeux, pour Pas la peine de crier. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain à la même heure. D'ici là, très bonne semaine à tous.